Bon, merci de m'accueillir ce matin. Merci pour cette rencontre, ce séminaire. Merci pour tous les échanges qu'on a eus déjà jusqu'à présent pour préparer, pour moi, qui m'ont aidé aussi à préparer cette intervention. Alors, le colloque s'intitule « Travail, propriété privée, échange et croissance ». Deux points. Faut-il tout renverser ? Alors, quand j'ai reçu le sujet, je me suis dit, bon, travail, c'est déjà été un peu traité, ça va être traité brillamment tout à l'heure par mon ami Emmanuel Gabelleri, donc c'est pas moi. Propriété privée, ça a été traité hier. Échange, ça a été traité hier, et à plusieurs moments, notamment par Nicolas Bavrez. Croissance, ça va être traité tout à l'heure. Faut-il tout renverser ? Ça sera le thème du débat de demain. Bon, il ne me reste rien à faire, quoi. Que me reste-t-il à faire ? Alors, en réfléchissant, je me suis dit, ben tout, pas tout à faire, mais le mot tout, faut-il tout renverser ? Et si on prenait une heure, enfin 45 minutes, pour réfléchir sur ce que ça veut dire tout renverser ? C'est quoi ce tout qu'il faudrait renverser ? On est face à un tout. Donc, ça veut dire qu'il y a en face de nous un système. Il n'y a pas juste des comportements liés au travail ou des situations ou des choix à faire liés à la croissance. Il y a aussi un tout. Donc, je me suis dit, ben, traitons la question du tout, c'est-à-dire du système économique, si vous voulez. Vous allez voir que ce n'est pas un système économique, j'y reviens. Mais vous n'êtes pas venu ici pour entendre une nouvelle mouture de « faut-il faire la révolution ?» ou « comment changer le système économique ?» Vous avez des dizaines de séminaires et de colloques là-dessus. Vous êtes venu ici à la Sainte-Baume parce que vous imaginez qu'il peut y avoir un regard chrétien ou en tout cas une inspiration chrétienne qui permette de répondre à la question « faut-il tout renverser ?» Et donc un regard chrétien sur ce que c'est que ce tout. Et là, dans cette très courte, j'espère, introduction, je rappelle que, quelque chose qui vous est évident, bien sûr, que l'unique objectif de l'Église, unique, c'est la sanctification de ses membres. L'Église n'a pas pour vocation de créer un monde meilleur. L'Église n'a pas pour vocation de créer des ONG, de créer... Elle a une unique vocation, on trouve ça au début du code de droit canonique, c'est très bien dit, c'est rappelé dans tout le droit d'ailleurs. Unique vocation, c'est la sanctification de ses membres. Et si vous êtes ici membre de l'Église, l'unique vocation en tant que disciple, notre unique vocation en tant que disciple du Christ, c'est notre sanctification. Et l'Église a ce rôle, et ce rôle unique. Ce qui veut dire que, en tant que communauté, nous mettons tout en œuvre pour nous aider mutuellement, pour nous aider nous-mêmes et nous aider mutuellement à nous sanctifier. À ceci près, si je puis dire, qu'on ne se sanctifie pas dans l'abstrait, en lisant des livres de théologie ou même en recevant les sacrements. On se sanctifie dans notre vie, dans toute notre vie. Et une partie non négligeable de notre vie, et quel que soit notre état de vie, que ce soit religieux ou laïque, une partie non négligeable de notre vie se passe en société. Et que donc il faut se sanctifier en société. Et que donc l'Église a pour devoir de donner quelques conseils pratiques, orientations, encouragements, pour pouvoir se sanctifier en société. Cet enseignement-là s'appelle l'enseignement ou la doctrine sociale de l'Église. Avec, à mon avis, un faux débat sur faut-il dire doctrine ou enseignement, il se trouve que doctrine en latin veut dire enseignement. Donc, soit on le traduit en doctrine de manière un peu excessive, soit on traduit enseignement, voilà. L'Église enseigne aussi comment se sanctifier dans la société, en tant que membre de la société. Voilà ce que c'est que la doctrine sociale de l'Église. Et c'est pas pour rien que Jean-Marie Salamito, dès le premier soir, nous a dit « Les chrétiens, et avant eux, les juifs, sont toujours, alors en particulier les chrétiens, se sont toujours intéressés à la question sociale. Parce que c'est là qu'on se sanctifie, et pas ailleurs. Donc, la doctrine sociale de l'Église, ce n'est pas quelque chose de superfétatoire qu'on aurait rajouté à un moment donné dans l'histoire, parce qu'il fallait bien aussi avoir un avis sur le capitalisme ou le communisme. Depuis l'origine, se pose la question de la sanctification, là où nous sommes plantés. Et 99,99%, c'est-à-dire à part les ermites, y compris les religieux ici présents, sont dans le monde. Et donc se sanctifient là. D'où une doctrine sociale. Alors, j'ai retenu de ce qui nous a été dit hier sur Saint Thomas, qu'il commençait toujours ses solutions par une alternative. Alors, je fais mon Saint Thomas, et je vous dis que la doctrine sociale de l'Église peut être envisagée sous un double aspect. Premier, c'est nous donner des consignes, des aides, des conseils pour nous, pour bien agir, pour mieux que bien agir, pour avoir un comportement juste, c'est-à-dire ajusté, dans nos propres pratiques sociales. Ça, c'est une dimension de la doctrine sociale de l'Église. Comment bien agir, comment agir de manière ajustée et comment discerner la manière ajustée de bien agir dans le monde, comme on dit. J'aime pas cette expression, mais voilà, dans la société. Alors, je ne vais pas traiter de ça aujourd'hui, on a déjà abordé la question à plusieurs moments. Il y a une deuxième vocation, une deuxième intention à la doctrine sociale de l'Église, c'est de s'interroger sur le fait de savoir si l'organisation sociale contribue ou non, est favorable ou non, à la sanctification des membres de l'Église. En clair, s'il n'y a pas dans la structuration même de la société des conditions qui sont plutôt favorables à l'humanisation, à une vie digne, donc à la sanctification, ou plutôt défavorables. Vous voyez, il y a deux dimensions à la doctrine de l'Église. Une dimension pratique, comment faire pour agir justement à titre personnel, à titre collectif éventuellement, comment agir justement dans nos différentes pratiques ici, d'entreprise, salariés, voilà. Première dimension. Et deuxième dimension, est-ce que le système dans lequel nous sommes est plutôt favorable pour agir justement, et ça, dans ce cas, il faut l'encourager, ou est-ce qu'il ne présente pas des aspects, des structurations, des dimensions tellement défavorables qu'elles poussent au péché, si vous voulez. On y reviendra. Qu'elles poussent à des pratiques injustes. C'est cette seconde dimension que je voudrais aborder ce matin. Cette seconde dimension de la doctrine sociale, donc en revenant à ma question, qui est la question du tout. Est-ce qu'il faut tout changer? Et c'est quoi ce tout auquel on est confronté? Alors qu'on appelle le monde, qu'on appelle la société, je vais lui donner une connotation plus économiste, donc plus économiste et plus d'économie politique. Et je vais lui donner un nom, le système. Nous sommes plongés dans un système. C'est-à-dire qu'au-delà de nos pratiques personnelles, il y a des ajustements entre nous qui perdurent, qui se cristallisent et qui font que, ici et maintenant, nous sommes ici tous, membres, appartenant, plongés dans un système. Et une partie de nos comportements nous échappe parce qu'ils sont relatifs au système dans lequel nous sommes. Je vais rappeler, mais j'ai très peu de temps pour dire tout ce que j'ai préparé, donc ça va être catastrophique. Je vais parler dans un premier temps de ce système qu'on appelle le capitalisme. Ce sera rapide, mais c'est juste pour fixer les idées relativement à un débat qu'on a déjà commencé et qu'on pourrait poursuivre et qui sera achevé, en tout cas partiellement, demain, je pense. Quand sera traitée la question, faut-il tout renverser? Donc, j'ai première section, le capitalisme. Et ensuite, je vais vous montrer comment on est, malgré nous, emporté dans ce système. J'ai noté du frère Joseph Thomas, cette phrase que j'ai trouvée très très juste hier quand il a première conférence. L'ordre temporel, le système si vous voulez, nous emmène quelque part. C'est très profond. L'ordre temporel nous emmène quelque part. Qu'on le veuille ou non, il nous emmène quelque part. Et donc c'est peut-être intéressant pour nous de savoir où il nous emmène. Et donc pour prévoir éventuellement des bifurcations, sauter du bateau avant qu'il ne soit trop tard, ou au contraire encourager parce qu'il nous emmène dans un endroit très favorable. Il nous emmène quelque part. Donc je vais vous montrer dans une seconde section, de manière rapide, et j'ai bien conscience de ne pas avoir nécessairement des économistes dans la salle, donc je vais le dire de manière romancée, si vous voulez, comment le système capitaliste a évolué depuis 50 ans et comment ça s'est enchaîné. Comment on est amené quelque part sans que personne ne l'ait vraiment voulu. Pour pouvoir conclure dans ma troisième section, sur l'évolution, pour faire écho à ce qui a été brillamment exprimé hier, sur l'évolution de la doctrine sociale de l'Église, pour entrer en dialogue et pour essayer d'apporter ma contribution sur la manière dont il faut comprendre l'évolution de la doctrine de l'Église par rapport à cette question du tout, du système, de la vie de l'Église sur le système économique capitaliste. Voilà. Donc tout ça en 40 minutes ou 35 minutes qui me restent. Alors vous me faites l'amitié de penser que je vais vous, évidemment, être très, très... rapide sur beaucoup de questions et que je m'appuie sur les livres qui sont en vente ici. C'est pas parce qu'ils sont en vente ici, mais c'est parce qu'il se trouve que c'est sur ces livres sur lesquels je m'appuie pour cet exposé, qui sont donc c'est les deux de même, bravo. L'esprit malin du capitalisme qu'il faut assister dans cette collection de poche plutôt que l'autre, et Le travail invisible. Donc. Et le troisième livre que je suis en train d'écrire sur la sociétalisation, je vais parler tout à l'heure, et puis mon petit que sais-je sur le capitalisme. Qui en fait, que je vais résumer en 3 minutes tout à l'heure, donc ça vous fait des économies substantielles, si vous m'écoutez. Donc première section, c'est le système. Ce système, notre système, il s'appelle le capitalisme. Que vous le vouliez ou non, vous êtes capitaliste, nous sommes capitalistes, nous sommes depuis 250 ans, dans notre Occident français, nous sommes plongés dans un système, pas que économique, politique, culturel, idéologique bien sûr, qui s'appelle le capitalisme. Tout système repose, se construit autour d'un noyau, ce qu'on appelle sa structure, et de forme que le système va prendre selon les circonstances, dans l'histoire. J'illustre. Le système capitaliste a un noyau que vous retrouvez quel que soit les périodes de l'histoire, et quel que soit les lieux dans lesquels le capitalisme s'est développé, il y a toujours le même noyau. Ce qui fait que le capitalisme, c'est le capitalisme, et ce n'est pas le féodalisme, ou ce n'est pas l'économie antique, ou la société esclavagiste, c'est le capitalisme. Je vais vous rappeler, dans un premier temps, quels sont les critères de ce noyau. Et puis, ce noyau va développer des formes selon les périodes, selon les circonstances, selon aussi les cultures. Et ça, ce sont les formes du capitalisme. Donc, premier temps de ma section 1, qu'est-ce que c'est que le noyau, le propre du capitalisme, ce système-là? Alors, dans le que sais-je, si vous avez la curiosité de le lire, je donne 5 caractéristiques. Je vais en souligner que 3 ici, les autres ne sont pas nécessaires à mon propos, immédiatement. Premier, le propre du capitalisme, c'est que le pouvoir politique est centralisé par l'État. Ça nous paraît évident parce qu'on vit dans une société de ce type-là, c'est pas du tout évident dans l'histoire. Le pouvoir politique est centralisé. Le capitalisme ne naît pas par l'entreprise, par les marchés, il naît par l'État. C'est parce qu'il y a une centralisation des États que va se mettre en place le capitalisme en Occident. Cette centralisation commence à partir du XIVe siècle dans l'Europe occidentale. Donc l'État prend le monopole du pouvoir politique, de la violence, comme dit Weber, ou Carl Schmitt définit l'État comme celui qui a le droit de déclarer qui est l'ami et qui est l'ennemi. Donc de faire la guerre ou de déclarer qui est le brillant ou qui est l'ami. L'ami, c'est l'État. C'est pas le privé, c'est pas le clan, c'est pas la famille qui déclare. C'est l'État, et tout va passer donc par l'État, et c'est l'État qui va contrôler ça. S'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de capitalisme. S'il n'y a pas d'État fort, il n'y a pas de capitalisme. Tous les pays qui n'arrivent pas à se développer dans le cadre du capitalisme sont des pays où il n'y a pas d'État fort. Donc l'État. Et puis, deuxième caractéristique du capitalisme, en pendant, le pouvoir économique est décentralisé au contraire. C'est-à-dire que, pour pousser l'idée au bout, son bout, c'est excessif, mais tout individu peut exercer le pouvoir économique, peut créer une activité économique, librement, dans le cadre évidemment défini par l'État. Il faut que l'objet soit licite. Mais dès lors que l'objet est licite, c'est ce qu'on a appelé la libre entreprise. Là aussi, ça n'a pas de soi. Pendant des siècles et dans beaucoup de sociétés, il n'est pas possible de créer une activité économique sans l'accord du collectif. Les tribus traditionnelles, on ne peut pas créer, comme ça, décider de créer une échoppe sans qu'il y ait une communauté qui soit d'accord avec ça. Donc la caractéristique du capitalisme, première caractéristique, c'est que l'État centralise le pouvoir économique et le pouvoir politique, et le pouvoir économique est, lui, décentralisé. Le choix de l'innovation, le choix des investissements, le choix de la production de nouveaux produits, c'est décentralisé, c'est donc non planifié. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, le capitalisme repose sur un certain nombre d'institutions, dont deux sont essentielles. Le marché, on a inventé une institution qui s'appelle le marché, ce qui est une pure invention idéologique, le marché. C'est-à-dire qu'on considère que tout échange doit passer par un espace abstrait qui s'appelle, qui oppose une offre et une demande. Et que toutes les relations d'échange peuvent se résumer à un marché. Ça, c'est typique du capitalisme. Depuis des siècles, des millénaires, il y a des marchés, évidemment. Les souks, les foires, par exemple, au Moyen-Âge. Donc, il y a évidemment des lieux d'échange. Mais que tout échange repose sur l'idée qu'il y ait une offre et une demande qui se confrontent et que cela détermine une quantité et un prix, ça, c'est typique du capitalisme. Deuxième institution propre au capitalisme, l'entreprise. Qu'il y ait une institution qui a le pouvoir de décider d'une orientation économique et que cette institution soit une communauté de travail, un collectif, c'est typique du capitalisme. Vous ne trouvez pas ça dans d'autres sociétés. Donc marché et entreprise. État et donc politique séparée d'économique, marché et entreprise. Et puis troisième caractéristique qui est centrale au capitalisme, c'est le profit comme fait social total. Alors un fait social total, c'est une expression qu'on doit à Marcel Mauss, qui a montré que dans les sociétés traditionnelles, le don est un fait social total. C'est-à-dire que le don décrit toutes les relations. Donner, c'est pas bien ou mal, hein. C'est juste que c'est parce qu'on donne, on reçoit et on redonne, que la société arrive à perdurer. Ça, c'est la société traditionnelle. Et Mauss, d'ailleurs lui-même, à la fin de son énorme travail sur le don, montre que le propre du capitalisme, c'est précisément de faire disparaître le don comme fait social total et de le remplacer par le profit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que nos comportements, la rationalité et parfois même la raisonnabilité, comme on dit en anglais, la raison de nos comportements est toujours examinée à l'aune d'un seul critère valable pour tout le monde, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne personnellement, individuellement? Et que ce critère, je suis désolé de nous le dire, je ne sais pas si je vais être désolé, parce que je ne vais pas apporter du jugement, il nous construit. Nous avons tous le réflexe de dire, mais dans cette relation, qu'est-ce que je gagne? Parce que c'est légitime de penser comme ça dans le cadre du capitalisme. Donc avant de porter le jugement, comprenons que ça structure notre façon notre mentalité. Ce qui me permet de rappeler, de conclure, que s'il y a une structure, un noyau structurel qui définit le capitalisme c'est bien plus qu'un système économique. C'est un système social, c'est un système politique, c'est un système culturel, et c'est un système de mentalité, ce que le grand sociologue allemand Norbert Elias appelait une civilisation. C'est-à-dire quelque chose qui nous civilise les uns par rapport aux autres, qui nous donne, le sens de nos relations. Et nous raisonnons, que nous nous voulions ou non, que nous soyons chrétiens fervents ou pas, nous raisonnons à travers des marchés, nous voulons des marchés, nous raisonnons à travers du profit, nous raisonnons. Voilà, c'est notre civilisation. Voilà pour le noyau structurel. Ce noyau se met en place lentement à partir du XIIIe siècle, dans une toute petite partie du monde, la façade atlantique de l'Europe. L'Italie du Nord, et puis rapidement, Angleterre et France. L'Espagne échappe rapidement à ce développement. Ça va se développer essentiellement en Angleterre et en France, 13e, 14e siècle, lentement, jusqu'à ce que ça se structure. Et puis il y a un pays qui, lui, va, est un peu original dans l'affaire, c'est qu'il y a un pays qui va se construire complètement sur cette civilisation, ce sont les États-Unis. Puisque ce sont des migrants d'Europe qui, fuyant justement toutes les convulsions que produisent la naissance du capitalisme, hein, qui naît de l'effondrement du système féodal, pas de l'effondrement, du lent déclin du système féodal, fuyant toutes ces guerres, tous ces soubresauts, vont créer un pays de toutes pièces fondé sur la civilisation capitaliste. Ce sont les États-Unis, d'où le fait que les Américains ont cette culture capitaliste, on dit on crée comme ça, mais c'est parce qu'en fait ils sont nés au moment même où le capitalisme va s'installer chez nous, Européens de l'Ouest, comme la nouvelle civilisation, le système dominant. Et puis cette petite part du monde, pour une raison qui est passionnante à expliquer mais que je n'ai pas le temps de faire, cette civilisation ne peut pas ne pas se répandre pour des raisons internes. Et donc elle va se répandre dans le monde entier. D'abord par des colonies, mais ce n'est pas tellement les colonies qui répandent le capitalisme, c'est au contraire l'indépendance, qui permet de créer des marchés, des États, etc. Et jusque, et ça on l'a vécu pour les plus anciens entre nous, la Chine, l'Inde récemment, la Chine, qui vont basculer dans cette civilisation capitaliste. Ce qui signifie que cette structure dont j'ai évoqué des éléments va prendre des formes très différentes, et dans le temps, et dans l'espace. Dans le temps, parce que le capitalisme de 1850, qu'on appelle manchestérien, n'a pas grand-chose à voir, enfin, est exactement le même sur le plan structurel, mais est très différent quant à la forme, du capitalisme des années 1950, qui lui-même est différent du capitalisme, je parle en France, hein, des années 2000. Parce qu'on va s'adapter à l'évolution des formes, des choses. Mais le capitalisme français est différent du capitalisme allemand, est différent du capitalisme chinois. Parce que les formes du capitalisme, donc l'adaptation de ce noyau dur, va dépendre des circonstances, des lieux, des formes, des antériorités, de l'histoire. Donc on distingue bien le noyau de la forme que prend le capitalisme, qui évolue donc. Ça va ? J'ai essayé de clarifier ce dont on parle, parce qu'on parle souvent capitalisme, libéralisme, etc. Le libéralisme, c'est une des idéologies. D'ailleurs, il ne faut pas dire le libéralisme, ça n'existe pas. C'est les libéralismes, il y a des libéralismes assez différents. Les libéralismes, ce sont les idéologies qui naissent avec cette structuration capitaliste et qui supportent idéologiquement la transformation. Et donc, il va y avoir des gens qui vont, comme Locke, on l'a vu hier, qui vont penser la propriété privée comme au cœur de la société, d'autres qui vont penser le marché, Adam Smith, d'autres qui vont penser... Le libéralisme, les libéralismes, ce sont c'est la dimension idéologique, si vous voulez, du capitalisme. Mais ce qui nous intéresse, nous, observateurs de la réalité sociale et historique, c'est le capitalisme comme civilisation. Civilisation. Bien. Eh bien, c'est ça le tout. Faut-il tout changer, tout renverser? On pourrait dire, faut-il renverser le capitalisme? Alors, faut-il renverser les capitalismes? Parce qu'aujourd'hui, j'espère que j'aurai le temps d'en parler, il n'y a pas un capitalisme, il y a des capitalismes assez différents. Même noyau, mais enfin, qui s'expriment de façon différente en Chine ou en France, par exemple, ou aux États-Unis. C'est ça qu'il faudrait renverser. C'est un tout. Bon, pourquoi il faudrait le renverser? J'en sais rien, ça vous le verrez demain. Mais On ne peut que constater que si, je reviens à mon propos initial, si notre ardente obligation, c'est la sanctification, la sanctification, ici et maintenant, va se faire dans le cadre du capitalisme. Les entreprises dans lesquelles vous êtes, les sociétés, les compagnies, les machins, la famille telle qu'elle existe aujourd'hui, dans ces mentalités-là, c'est là qu'on va se sortir. Donc il faut bien connaître ce système. Autrement, on est très abstrait. Pardon de dire comme ça... Mes frères dominicains, on peut faire la théologie morale extrêmement aérienne, mais qui ne mord pas sur la réalité de la raison pratique de ce que vivent les gens concrètement. La famille telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Alors ce tout, il nous emporte. Je reprends cette formulation. L'ordre temporel nous emmène quelque part. Ce tout nous emmène quelque part. Et je vais vous le montrer. Ah oui, j'ai pas mis le compteur, c'est très bien. Donc j'ai encore une heure. Je vais vous montrer en tant que je peux, rapidement. Je vais vous montrer comment le capitalisme en Occident, je suis obligé de parler d'un capitalisme, mais qui est le capitalisme premier. C'est comme les forêts premières, hein, il y a le capitalisme premier. Le capitalisme originaire, c'est France, Angleterre, États-Unis. Un peu plus tard Allemagne, un peu plus tard Italie. C'est France. Grand pays capitaliste et libéral, Angleterre, bien sûr, et États-Unis. Et je vais vous montrer comment ce capitalisme nous a emporté quelque part. Et comme je le disais, je pars du principe que vous n'êtes pas économiste, donc je vais vous le raconter sous forme d'une histoire. C'est donc ma deuxième section, évolution du capitalisme en Occident dans le dernier demi-siècle, 50 ans. Vous êtes en 1975, vous êtes le président des États-Unis. 74, vous êtes le président des États-Unis. Et on vous dit, monsieur le président, il y a un problème. Les entreprises américaines, vous savez peut-être, depuis le début du XXe siècle, captent les cotisations des futurs retraités, gardent ces cotisations, et puis, quand les salariés partent à la retraite, reversent à leurs salariés l'accumulation de cotisations. C'est-à-dire que ce sont les entreprises qui gèrent les retraites de leurs salariés aux États-Unis depuis le début du XXe siècle. Problème, c'est que si l'entreprise fait faillite, que devient la retraite du salarié? Et ce n'est pas un petit sujet parce qu'il se trouve que, de par la loi, elle est garantie par l'État. Alors, quand l'entreprise est petite, statistiquement, il n'y a pas trop de sujets. Mais quand l'entreprise devient importante, et dans les années 60, les entreprises voient leur taille grandir, c'est un sujet pour l'État, parce que s'il doit garantir des retraits d'entreprises qui ont faillite, qui ont des milliers de salariés, ça va devenir de plus en plus compliqué pour les finances publiques. Monsieur le Président, il faut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous êtes des personnes de bon sens, vous dites, c'est très simple, il faut sortir les caisses de retraite des entreprises, en faire des acteurs indépendants, et ces caisses de retraite captent les cotisations, mais vont les placer ailleurs que dans l'entreprise dans laquelle travaille le salarié, pour pas qu'il perde tout si l'entreprise fait faillite. Hein ? C'est du bon sens. C'est du bon sens. Eh bien, alors je vous rappelle que caisse de retraite, en anglais, ça se dit pension funds, qui a été bêtement traduit par fonds de pension, mais la traduction exacte de pension funds, c'est caisse de retraite. Ça dédramatise le terme pension fund, fonds de pension, parce qu'on voit tout de suite des monstres calamiteux, alors qu'en fait, ce sont juste des caisses de retraite. Et donc, on dit à ces caisses de retraite, écoutez, à partir de 1974 et de la loi dite ERISA aux États-Unis, vous sortez des entreprises, vous devenez des acteurs financiers indépendants et vous placez les cotisations à la bourse. Comme ça va diluer le risque. Super idée. Et c'est comme ça que les fonds de pension, les caisses de retraite, sont devenus des acteurs financiers. Petite décision, énorme conséquence économique. Je ne sais pas si vous faites un petit calcul, si chaque Américain, il y a 200 millions de cotisants, chaque Américain cotise 300 dollars par mois, c'est pas beaucoup, mettons, 300 dollars pour sa retraite, ça vous fait 60 milliards par mois. Ça fait 600 milliards par an, c'est un tiers du PIB français. Rien que ça, un petit calcul à la louche, comme ça, vous voyez. C'est énorme, les quantités d'argent qui vont être sortis des entreprises pour être placés sur les marchés financiers, les marchés boursiers, qui vivotaient, je suis pourtant qui n'étaient pas très vifs. Et on va faire basculer le financement des États-Unis, des banques, vers les marchés financiers. Il n'y a pas d'infâme financier, vous voyez, qui agitait leurs mains, leurs doigts crochus pour et leurs lèvres pleines de cupidité pour essayer de... Non, c'est juste que c'est une décision politique de bon sens pour protéger l'épargne publique. Sauf que ça a des conséquences inattendues, c'est qu'il va y avoir énormément d'argent sur un marché financier. Il y a 10 000 entreprises cotées au monde. Pour donner un ordre de grandeur, il y a 3 millions d'entreprises en France. 3 millions d'entreprises en France. Il y a 10 000 entreprises cotées dans le monde entier. Ça veut dire qu'il y a énormément d'argent qui va arriver sur très peu d'entreprises. Et donc, ça va faire tourner l'argent. Il faut faire tourner l'argent pour qu'il soit rentabilisé. Rentabilisé pour qui, cet argent ? Ben, pour les retraités qui attendent de la rentabilité de cet argent, le paiement de leur retraite. Hein. Et on met en place on ne sait pas encore comment l'appeler. C'est pas un système, c'est un truc, on va dire ça. Que personne ne contrôle bien, mais qui va changer complètement le financement. Que va-t-il se passer ? Maintenant, vous n'êtes plus le président des États-Unis, vous êtes le patron d'une entreprise cotée en bourse. Vous dites, ouais, il y a un moyen fantastique d'avoir beaucoup d'argent, de capter de l'argent. C'est de dire aux financiers, venez chez moi, je vous promets un bon rendement. Vous êtes d'accord, c'est du bon sens. Venez chez moi, et grâce à mon activité économique, vous allez gagner, enfin, il y aura un bon rendement. Alors, bon rendement, ça veut dire qu'il faut mettre en place un moyen d'augmenter la performance des entreprises. Donc, il faut éliminer tout ce qui n'est pas performant. Les fameuses restructurations, les plus anciens s'en souviennent, hein, les premiers plans barres, il fallait restructurer les entreprises. Ça se met en place. Restructuration. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que, assez rapidement, vous atteignez le maximum de rentabilité que vous pouvez servir, des bénéfices que vous pouvez distribuer. Vous allez dire, venez chez moi, je vous fais une promesse. C'est que la valeur de votre placement, elle va augmenter grâce à ma stratégie. Comment ? Hein ? J'achète d'autres entreprises. Donnez-moi de l'argent. Grâce à ça, j'achète des entreprises. Je grossis en taille. J'élimine dans les entreprises que j'achète tout ce qui ne va pas bien. Je garde que ce qui est bon. Ça fait grossir la valeur. Je vous resserre de la valeur. C'est ça la fameuse valeur pour l'actionnaire, dont on a parlé hier, vous avez posé la question. C'est cette logique, c'est de dire à l'actionnaire, écoutez, vous, l'actionnaire dans les fonds qui ont placé l'argent, vous nous apportez de l'argent, bien, moi je vais vous valoriser grâce à ma stratégie. Et ça vous explique qu'à partir de 1980, vous avez une énorme vague d'OPA. OPA, vous savez, c'est rachat des entreprises. Parce qu'il y a énormément d'argent, qu'est-ce que je fais ? La première chose pour augmenter mon rendement, c'est que j'achète des entreprises, je me débarrasse de tout ce qui ne va pas. Et je garde que ce qui est bon, ça fait augmenter mécaniquement ma valeur. D'où une augmentation énorme de la taille des entreprises. Jamais vue dans l'histoire du capitalisme, bien plus grande que celle qui était très importante dans les années 1930. Un saut énorme, parce que vous avez des entreprises qui vont avoir des tailles transnationales, qui vont dépasser les nations, grâce à l'argent capté et au fait de racheter. Dans mon institut, on a fait une étude sur les entreprises françaises, on voit la disparition des grandes entreprises, remplacées par des méga-grandes, par rachat, vous avez une disparition des grandes, c'est entre 1 milliard et 5 milliards de chiffre d'affaires, et sont remplacées par des super grandes, en fait, plus de 5 milliards de chiffre d'affaires. Et augmentation d'un peu de la taille des entreprises moyennes. Donc, disparition des grandes, achetez. Regardez en France, si vous êtes dans une entreprise, quelqu'un qui est en Stellantis, par exemple, donc Peugeot, depuis Peugeot, enfin, Peugeot, c'est vraiment presque un exemple caricatural parce que ça, son temps à racheter des marques. Jusqu'à donner dans Stellantis récemment. Donc, énorme entreprise. Mais c'est une grande entreprise. Vous êtes maintenant le patron de la grande entreprise. Vous dites, mais attendez, toute cette masse, où est-ce que je vais trouver les débouchés pour vendre mes produits, mes voitures ? Il faut que je trouve des marchés et taille globale, mondiale. Il faut que j'aille investir dans les nouveaux marchés. Il y en a un qui s'ouvre, ça tombe bien, c'est la Chine. 1,2 milliard de personnes. Grosse consommation. Chut. Eldorado. On investit en Chine. Et on développe un marché chinois qui permet à ces entreprises de se globaliser. La globalisation, ce n'est pas un truc qui est arrivé n'importe comment. C'est que la taille d'entreprise est devenue telle qu'il fallait bien trouver des débouchés au niveau global. Ce n'est pas en France que vous allez trouver des débouchés pour Bouygues ou pour Vinci. Il faut trouver des grands chantiers internationaux. Ou pour Stellantis. Globalisation, 1980-1990. Conséquence, toujours un. Vous voyez, on est parti de la finance, on a des entreprises qui se développent, qui deviennent énormes pour certaines. Là, vous pourriez dire, attendez, mais là, vous me parlez d'entreprises cotées, mais quand même, en France, il y a 600 entreprises cotées. Donc, ça veut dire qu'il y a 3 millions d'entreprises, moins 600, d'entreprises non cotées. Sauf que le coût de l'argent, pour toutes les entreprises, il dépend de ce que peuvent gagner les financiers s'ils placent des entreprises cotées. Donc de proche en proche, toutes les entreprises doivent s'aligner sur la même performance. Et tout le monde va chercher la performance. La performance, ce n'est pas nécessairement le résultat, c'est la valorisation de ce qu'on appelle les actifs, la valorisation du capital. Par la taille, par l'augmentation du chiffre d'affaires, du marché. Et puis il y a une troisième façon d'augmenter la valeur de l'entreprise, c'est l'innovation. Vous dites aux financiers, écoutez, je ne sais pas, vous, donnez-moi de l'argent. J'ai une invention là qui va révolutionner le marché. Donnez-moi de l'argent, je vais la réaliser dans 5 ans, jackpot. Grâce à mon invention, vous avez des nanotechnologies qui vont envahir la planète. Vous allez voir ce que ça va donner. Bon, ça n'a pas marché pour les nanotechnologies, mais vous avez Internet qui va envahir, et ça a marché pour Internet. 1990, explosion des innovations. Là aussi, ce n'est pas qu'on est devenu subitement intelligent, c'est que la mécanique du système oblige les entreprises à présenter toujours des promesses de valorisation toujours plus grandes. Nouveauté, changement de stratégie aussi. On dit, jusqu'à présent, la stratégie, c'était... Maintenant, on change de stratégie, on se restructure. Grâce à ça, on va créer de la valeur. Et le capitalisme occidental devient de plus en plus un capitalisme de l'accélération. On change de plus en plus vite les modèles économiques, on change de plus en plus les modèles de produits. Pourquoi ? Parce qu'il faut toujours innover, mais c'est pour ça qu'il faut avoir des consommateurs. Et les consommateurs sont sommés de consommer de plus en plus, de plus en plus vite. Alors ça, regardez votre tiroir avec vos téléphones portables. Entre 1980, fin des années 90, les gros portables que vous avez peut-être... énorme chose comme ça aujourd'hui où... Non seulement il n'y a plus un téléphone par famille, mais il y a plusieurs téléphones par personne dans la famille, potentiellement, téléphone professionnel, téléphone de chat. Regardez sur ce simple produit, pour prendre cet exemple, qui, une image de ce qui s'est passé pour des milliers de produits, multiplication, hypertrophie de la consommation. Pourquoi ? Parce qu'il faut que la consommation permette à la grosse machine de fonctionner, parce que derrière, il y a tout le rendement du capital, tout est lié. Le rendement du capital qui sert aux retraités, qui d'ailleurs achètent les produits, et part encore plus en vacances, etc. Et la boucle est bouclée, ça donne une croissance économique formidable. On a une croissance économique constante entre 1990 et la fin des années 2000. Une croissance économique forte. On dit toujours les 30 glorieuses, mais une très forte croissance économique pendant cette période, qui est fondée, vous voyez, c'est sur là. Alors, sur la spéculation, en fait. Spéculation au sens économique, ça veut dire que j'anticipe que la valeur va augmenter, et donc je prends des décisions en vendant par avance ce que mes décisions vont produire. Alors, il y en a qui font faillite, il y en a qui... mais comme dans la totalité, il y en a suffisamment qui l'emportent, le système croit, et croit de manière accélérée. Le grand sociologue allemand Hartmut Rosa a fait toute son œuvre sur l'accélération, hein, années 90-2000, accélération de tout, de la consommation, de l'investissement, de l'innovation, de la production, du rendement du capital, des prix, de l'immobilier, on en parlait au déjeuner, de l'immobilier, on a tous vécu ça, de cette spéculation, de cette accélération. Ne me racontez pas que vous n'avez pas investi dans l'immobilier avec l'idée quand même que vous allez revendre beaucoup plus cher, et, indépendamment des loyers, etc., mais parce qu'il y a l'augmentation des prix. Bon. Parce que c'est ça, on anticipe que le quartier va se développer. Dans la gestion d'entreprise, c'est mon dernier point pour raconter cette histoire. Quant à la gestion des entreprises, peu importe le travail, à la limite, on reparlait cet après-midi, mais je pense que tu vas aborder le sujet, mais peu importe le travail ne devient plus très important. Ce qui compte, c'est la performance. Débrouillez-vous à travailler. L'essentiel, c'est qu'il y ait de la performance. Le bon exemple, qui est un peu caricatural, mais que tout le monde a en tête, c'est l'hôpital. L'hôpital se financiarise. Cette technique s'appelle la financiarisation. L'hôpital se financiarise. Ce qui compte, c'est le nombre de lits et la rotation des lits. Bon, après, le travail du personnel, il faut qu'il s'adapte. Parce que ce qui compte, c'est qu'on ne garde pas les malades plus de 3 jours, enfin, 4 jours, etc. Et qu'il y a même tout un barème pour que ce soit rentable. Oui, il n'y a pas de cupidité dans l'histoire. Il y a aussi la cupidité, mais enfin, l'humain étant ce qu'il est, il y a aussi la cupidité, bien sûr. Mais c'est tout le système qui nécessite l'accélération. C'est tout le système qui nécessite d'aller toujours plus vite pour répondre à la promesse qu'il fait lui-même de valorisation du capital qui a été investi. Et ça continue, c'est l'euphorie. Une crise en 2001, on se dit attention, ça peut être dangereux, parce que à force de croître comme ça, de faire croître la valeur, est-ce que la réalité du monde économique suit la crise des nouvelles technologies en 2001, mais ça passe. Et puis ça continue, alors, l'euphorie maximum dans les années 2005, on dit même, on a changé d'économie, je me souviens de ce débat d'économistes absurde, enfin peu importe, le débat était absurde, les économistes un peu aussi, on change d'économie maintenant, les rendements sont croissants, comme on dit, c'est-à-dire que plus on dépense et plus on gagne, quel que soit quoi qu'on fasse, on gagne davantage. C'est une loi à l'encontre d'une loi économique fondamentale qui s'appelle la loi des rendements décroissants. Plus on dépense et moins on gagne dans le temps. Mais voilà, plus on dépense, plus on gagne. Il y avait des gens comme ça qui théorisaient ça. Donc la machine est à plein régime, tout le monde est heureux. 2007-2008, boum, on prend un mur. Les subprimes. Alors subprimes, c'est pas du tout un truc sordide. Il y avait une probabilité assez faible que tous les marchés immobiliers américains, de tous les États américains, se mettent à la baisse au même moment. Et la probabilité était faible. Pas de chance, même faible, une probabilité peut advenir, elle advient. Il se trouve qu'en 2008, tous les marchés, 2007, tous les marchés immobiliers des États américains entrent en baisse au même moment. Effondrement du marché immobilier américain. Pourquoi il fallait que ce soit au même moment? Parce que si un État américain voit son... ses prix augmenter alors que l'autre baisse, bah, les gens se déplacent d'un état à l'autre. Enfin, aux États-Unis, c'est facile. Mais quand tous baissent, bah, c'est tous les acteurs qui sont endettés se retrouvent avec de l'immobilier qui coûte, qui vaut moins. Et c'est tout le système financier qui est mis en cause. C'est tellement mis en cause que tout s'effondre. Ce grand mouvement incroyable, pas du bateau ivre, hein, parce que c'était contrôlé. De la voiture qui va de plus en plus vite, et on se dit, mais c'est infini, on a trouvé une sorte d'énergie incroyable qui s'appelle la finance, se prend le mur, s'effondre, tout disparaît. Et pour éviter que tout disparaisse, on verse en gros entre 3 000 et 6 000 milliards d'euros en 6 mois. Pour vous donner ordre de grandeur, c'est deux fois la richesse créée par la France en un an. Le on verse, c'est les États qui s'endettent, et ce sont les marchés financiers, ce sont les banques centrales qui vont créer de la monnaie. La monnaie faible, la monnaie factice, pour éviter l'effondrement. Et on évite l'effondrement, de justesse, mais on l'évite. Je dis de justesse, parce que nous on est heureux là, ça nous paraît évident, mais je suis sûr en termes économiques, il était possible que tout s'effondre. Et là on se dit, c'est fini la finance c'est mon ennemi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de qui a dit ça. Un grand président, Barack Obama, vous pensez à quelqu'un d'autre. Qui là aussi l'a dit aussi, hein, notre président français, avec moins de puissance, disons. Mais Barack Obama avait dit ça, quand il était élu, mon ennemi, c'est la finance. Et il met pas du tout en place une politique de réforme de la finance. Pourquoi c'est pas possible? Ça, vous pouvez répondre. Pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est tout le système, on vient au système, qui est tel que si vous voulez détricoter la finance aujourd'hui, c'est tout le système de retraite qu'il faut détricoter. Parce que j'ai parlé des États-Unis, mais vous avez la Chine qui est aussi sous la même forme, vous avez tous les pays du Nord, vous avez la Suisse, vous avez et une partie aussi du système français, puisque à peu près 19% des retraites françaises dépendent du marché financier. Donc même le système français, qui est un système par répartition et pas par valorisation du capital, même le système français dépend en partie du marché financier. Donc pour détricoter ça, c'est pas rien. Et on va y revenir. Hein. Comment changer les choses, c'est pas si simple de changer un système une fois que les choses sont verrouillées. Et puis c'est un système qui a aussi des effets bénéfiques, qui a créé l'innovation, énormément d'innovation, de la vie sociale. On ne peut pas dire que tout est négatif, loin de là. Et du développement des pays comme la Chine ou des pays d'Afrique qui ont aussi bénéficié de ce développement. Diminution de la pauvreté mondiale. Bon, on arrive donc, on sauve le système. Mais ce n'est pas tout à fait fini l'histoire parce qu'il se trouve qu'entre-temps, une technologie a émergé, parmi toutes les technologies dont je vais parler, les innovations, il y a une technologie qui a émergé et qui va changer la donne, c'est l'Internet. Pourquoi c'est très important cette affaire d'Internet? Parce qu'il se trouve que toute l'histoire que je vous ai racontée a eu pour conséquence de mais vous pouvez le subodorer ça, de survaloriser l'individu, l'hyper-individualisme. C'est pas une question de mentalité, de philosophie, décalée des réalités économiques. Il se trouve que parce qu'il faut encourager toujours plus de consommation, toujours plus de dons de soi, de mise de soi dans ce système d'accélération, ça a hypertrophié l'individu, et même l'individu, ce que j'appelais dans ce bouquin, l'individu micro-capitaliste. On parle de capital santé, de capital sommeil, de capital humain, de capital social, de capital... tout est devenu capital. Ça nous paraît évident, d'ailleurs, de parler comme ça, mais ce n'est pas du tout évident de se considérer comme un tas de capital qu'il faut valoriser. Et vous voyez qu'on est bien dans cette logique capitaliste, y compris mon bronzage, qui est un capital, mon sommeil, qui est un capital que je dois gérer avec précaution, comme si c'était un actif financier. Et donc, cette période 1980-2010 a été une période d'hypertrophie de l'individu contre le collectif. C'est vrai dans les entreprises, déclin des syndicats, déclin des formes communautaires, déclin de toutes les communautés, mise en cause de toutes les institutions, l'Église, évidemment, mais l'armée, la police, l'État de manière générale, au profit de l'individu tout puissant et du micro-capitaliste. Mais si vous connectez, alors vous allez me dire, à juste raison, en vous appuyant sur les travaux de Thomas Hobbes, XVIIe siècle, s'il n'y a que des hyper-individus, la société ne peut pas fonctionner. C'est ce que Hobbes avait décrit comme la guerre de tous contre tous. Tout le monde devient en concurrence avec tout le monde. Ça ne peut pas marcher. Eh bien, ça peut marcher dans un cas nouveau et particulier qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse, et notamment dans le cas de la dot et celle de l'Église, c'est que l'Internet, les réseaux sociaux, permettent de relier des individus et leur permettent de créer des communautés indépendamment des communautés traditionnelles. Ça, c'est la grande nouveauté civilisationnelle depuis les années 2000. On n'a pas pris conscience de ce qui est en train de se passer, complètement. On le sait, bien sûr. Au premier jour, on a discuté des jeunes sur les réseaux sociaux, et on sait que les réseaux sociaux sont partout. Mais les jeunes se socialisent par les réseaux sociaux. Ils se socialisent. Ils rentrent en contact les uns avec les autres par ces réseaux sociaux. Que ça nous échappe, c'est une évidence, parce que ce n'est pas notre culture générationnelle. Qu'on y voit des conséquences négatives, c'est une évidence, parce que des études ont été faites pour montrer que ça a un impact négatif sur les comportements. Mais pour autant, on ne peut pas aussi négliger que c'est une forme de socialisation. Et que si on les prive des réseaux sociaux, on les prive d'une façon de se socialiser telle qu'elle a cours aujourd'hui. Et de manière générale, la nouveauté historique, c'est que les réseaux sociaux permettent pour la première fois dans l'histoire à des individus isolés de faire communauté et de se relier par des réseaux. Et de créer des communautés parfois éphémères, parfois pas éphémères, de jouer à l'amour laïque, de jouer aux amis, mes amis Facebook, de jouer à ça relativement. Peut-être que nous, on considère que c'est jouer, mais dans une culture, dans une nouvelle mentalité, c'est pas jouer, c'est une nouvelle façon de socialiser. Nous sommes en train de mettre en place une société dans laquelle il y a à la fois hyper-individualisme et quand même cohésion sociale. Effet de cohésion sociale, effet de communauté, grâce au réseau Internet. Avec évidemment des nouveautés politiques, dont la principale, c'est que c'est la place de l'opinion, et là je me réfère, je crois, à la première... c'est la première intervention, d'où l'importance de l'opinion, parce que sur ces réseaux, des communautés se font, mais à partir d'opinions qui s'agrègent. Il n'y a pas de corps intermédiaire pour médiatiser les opinions. Donc, il y a des effets d'opinion, bouc émissarisation bien connus. Ça, c'est... Mais il y a aussi des communautés stables qui se créent par Internet, qui n'auraient pas existé d'ailleurs dans le monde physique. C'est des gens qui vont travailler entre l'Australie et la France sur un sujet sans jamais se rencontrer et qui le peuvent grâce à Internet. Donc, se crée une société nouvelle une étape nouvelle du capitalisme, on est toujours dans le capitalisme, mais une étape nouvelle du capitalisme, que j'appelle la sociétalisation, dans laquelle la société prétend ne pas avoir besoin de corps intermédiaire pour faire cohérence. Ça, c'est très nouveau, et je crois que ce n'est pas du tout pensé. On n'a pas besoin de l'Église pour être croyant, et pour trouver des gens et sur lesquels je partage, parce que voilà, ça me suffit. On n'a pas besoin d'associations pour entrer en terre. Et ce n'est pas sans effet de réel positif. Hein. Il n'y a qu'une critique dans ce que je dis, je le constate. Et puis, la dernière institution à être mise en cause dans l'affaire, c'est, à votre avis, l'entreprise. Ce qu'on appelle la crise du travail, il n'y a pas de crise du travail. Moi, je travaille sur le travail en termes économiques depuis 10 années, il n'y a pas de crise du travail. Les gens travaillent autant, même plus qu'avant, et bien très intense. Sauf qu'ils ne travaillent pas dans l'entreprise. Il y a plein de lieux où on travaille aujourd'hui, justement grâce à Internet. Mais aussi dans l'espace familial, on fait plein de choses qu'on ne faisait pas avant, parce qu'on, grâce à des réseaux, on peut, par exemple, bricoler, et vous savez que vous avez plein de possibilités d'apprendre plein de choses, et donc de travailler. Donc il n'y a pas une crise du travail en tant que travail, il y a une crise du travail socialisé dans l'entreprise. En fait, il y a une crise d'entreprise, qui était la dernière institution, corps intermédiaire, qui donnait le sentiment de faire communauté, bien, cette entreprise est en cause. On me parlait hier d'une autre grande entreprise française dans laquelle on peut travailler à 5 jours en télétravail. Et très justement, la personne qui m'en parlait me disait « Mais je suis un ancien et j'ai la culture d'entreprise. » Parce que pour les nouveaux, c'est pas si évident de se socialiser de cette façon. Mais ils peuvent l'apprendre. Mais il y a une grande entreprise française qui a défrayé la chronique par le niveau de ses résultats, qui sont excellents, et dans lesquels on peut travailler jusqu'à 5 jours en télétravail. C'est-à-dire, vous voyez, l'entreprise en tant que lieu de communautaire, on se retrouve autour d'un café parce que c'est ça, il y a des camarades, des collègues, c'est plus là que ça se passe. Mais pour autant, on travaille beaucoup, j'imagine. Hein, je parle sous les. Hein, on continue de travailler beaucoup, hein, c'est pas parce que. Donc vous voyez, dernière étape de cette évolution, c'est que le travail lui-même est remis en cause. Alors ce que je voulais vous montrer, vous voyez, à court terme, si vous voulez, tous les chiffres, vous les avez dans les bouquins, toutes les démonstrations économiques, vous les avez dans le bouquin. Ce que je voulais vous montrer, c'est comment on a emporté. L'ordre temporel nous emmène quelque part. Comment on a été emporté quelque part? Mais il n'y a eu aucune décision planifiante de ce quelque part. Aucune. Des petites décisions ont été prises, et quand on a commencé à le faire, mais j'aurais pu le faire si j'avais eu plus de temps, à toutes les décisions qui ont été prises, c'était une décision de bon sens relativement à la situation. Oui, quand vous êtes patron, c'est du bon sens de maximiser votre résultat. Donc de chercher la performance. Oui, c'est du bon sens, parce que vous êtes salarié, de ne pas trop vous investir en entreprise, parce que vous avez plein de possibilités de vous investir en travail grâce à Internet, de vous investir ailleurs. Oui, tout ça sont des décisions de bon sens. Ce qu'on appelle en économie une dépendance au sentier. La dépendance au sentier, c'est le fait qu'on prenne une décision qui est rationnelle par rapport à la décision précédente. Mais le sentier qui se trace, personne ne l'a dessiné. On est conduit, quelque part. Et donc, et c'est à ça que je voulais en venir pour conclure, le système, c'est le second point de la doctrine sociale de l'Église. En tant que chrétien, on est bien obligé d'avoir aussi un jugement sur le système en nous posant la question, mais où est-ce que ça nous mène? Parce que ça peut nous mener à 2008, une crise qui peut nous emporter, ça peut nous mener à plus de prospérité. Il faut qu'on ait un jugement aussi sur le système. C'est clair mon propos, ça va? Oui? Enfin, si c'est la démonstration, en tout cas, de processus logique. En tant que chrétiens, nous avons aussi, et de plus en plus, apporté un jugement sur un système qui est devenu global, qui est devenu mondial, avec des formes différentes, mais qui est devenu mondial maintenant, qui concerne aussi bien la Chine, l'Inde, l'Afrique, l'Amérique latine, évidemment les pays occidentaux, et l'URSS, et la Russie, sous des formes différentes, mais c'est le même système. On a apporté un jugement pour savoir où tout ça nous conduit. Alors, il y a 4 scénarios que je ne vais pas aborder. Je vais aborder s'il y a des questions, mais il n'y aura pas de questions. Je vais donc conclure sur l'actualité de la doctrine sociale de l'Église. Je vous disais à l'instant, donc, voilà, en vous donnant cette histoire à grands coups de brosse, évidemment, hein, comment le capitalisme a évolué chez nous de manière tout à fait logique, nécessaire au sens de chaque décision, mais insensée dans le sens où on ne sait pas où ça mène. Et ça, je suis, en tant que chrétien, je suis conduit à le confronter avec l'objectif de Mon objectif en tant que chrétien, l'objectif de l'Église en tant que communauté de disciples du Christ, qui est la sanctification de ses membres. Et donc la question, vous voyez comment les choses se rejoignent, la question qu'on doit se poser en tant qu'observateur scientifique, chrétien, d'une réalité séculière, mondaine, c'est en quoi ce système, où ce système nous conduit, et en quoi, là où il nous conduit, ça permet la sanctification de ce membre, ça permet une plus grande humanisation, pour le dire d'une façon plus sécularisée, une plus grande humanisation de ses membres, ça sert à la dignité de ses membres, etc. Alors, quoi ce système ? Et évidemment, il y aura nécessairement des dimensions positives et des dimensions négatives. Et c'est le point sur lequel je voudrais terminer, en soulignant, et là, c'est vrai que le dialogue avec Jacques Benoît, on l'a déjà eu et on continuera de l'avoir, il me semble que la doctrine sociale de l'Église s'est emparée de cette question du système depuis 1900, juste après le Concile Vatican II, d'ailleurs déjà dans l'Humen Gentium, mais à partir de Populorum Proessio, donc 1967. C'est emparé de cette question de savoir comment penser, Populorum Proessio, c'est sur le développement économique, comment on peut penser un développement économique en général. Le développement économique, vous voyez, c'est bien le système qui se développe, c'est pas l'argent, c'est pas le travail, c'est pas ça. Un élément du système, c'est le système dans son entier. Et donc de plus en plus, et à mon avis, là, il y a une vraie bifurcation de la doctrine sociale de l'Église. À partir de 1960, au moment justement où le système se globalise, l'Église est obligée de penser, non seulement localement comment ça se passe, mais aussi globalement, en quoi ce système sert ou non l'objet même de l'Église, qui est la sanctification de ses membres, et donc l'humanisation. Alors, les papes vont... Les encycliques vont ajouter des choses, mais la grande encyclique sociale, la grande encyclique de la doctrine sociale sur ce sujet, elle est due à Benoît XVI, Caritas in Veritate. Pour la première fois dans l'histoire des encycliques sociales, un pape propose une encyclique systématique. C'est-à-dire que si vous lisez Caritas, vous relisez Caritas in Veritate, après une magnifique introduction sur ce qu'est l'articulation entre charité et amour, entre charité et vérité, les éléments du système sont mis en relation les unes avec les autres pour montrer qu'en fait, ça forme un tout. Il y a par exemple ce passage sur l'écologie où le pape souligne qu'on ne peut pas faire de l'écologie sur l'environnement sans tenir compte aussi de l'écologie humaine, parce que c'est un tout, que les choses sont liées les unes avec les autres. Voyez, donc la grande encyclique, c'est pas Laudato Si, hein. La première, c'est Caritas in Veritate. Laudato Si, 2015, va reprendre ce thème de tout est lié, vous savez que ça apparaît 37 fois, je crois, dans Laudato Si, de tout est lié, pour montrer qu'on ne peut pas comprendre la question environnementale si on ne comprend pas la question financière, si on ne tient pas compte de la question des inégalités, si on ne tient pas compte de la question des migrations, si on ne tient pas compte de l'ensemble. C'est la deuxième grande encyclique, enfin la troisième si on prend propos de bon proviso, la troisième grande encyclique qui propose une vision du tout, du fameux tout qui est l'objet de notre discussion de ce matin, enfin notre réflexion de ce matin, du tout. C'est pas simplement le travail qu'il faut aborder, c'est pas simplement la question de la finance, c'est l'ensemble, c'est comment tout ça tient et en quoi tout ça peut servir ou non le royaume de Dieu. Pas le royaume de Dieu que nous avons à établir, hein, mais que le royaume de Dieu que nous avons à permettre. Donc, je crois qu'il y a une bifurcation, mais nous allons continuer nos discussions et notre travail ensemble. Donc, je crois qu'il y a une bifurcation à partir des années 70, en même temps que cette évolution du capitalisme occidental, cette génération, où l'Église est obligée de tenir compte du tout et de se poser la question du tout, qu'elle avait évité jusqu'à présent. Elle avait évité de poser la question du tout, parce que la question du tout était posée par le communisme, qui se présentait comme un tout social, et justement on met à distance et là on est obligé de... Donc ça c'est le point sur lequel je voulais terminer, je crois que j'ai dit à peu près ce que je pouvais dire là, je n'oublie rien, pardon, je regarde, voilà c'est sur laquelle je voudrais terminer, et nous serons appelés de plus en plus, et je crois que c'est vraiment l'apport des chrétiens, là je vais parler en tant que scientifique, l'apport aujourd'hui des chrétiens au monde scientifique, c'est de pouvoir proposer une vision du tout qui a un sens. Je m'explique. Je vous ai expliqué la question de la dépendance au sentier. Il y a plein de gens qui pensent le tout du système, mais sans lui dire, lui proposer dans un autre sens que le progrès. Mais le progrès, vous savez, ça, pour le coup, ça n'a aucun sens. Le progrès, c'est ce qui arrive. Donc, c'est un plus, c'est quelque chose. Nous avons une... Enfin, les chrétiens, pardon de vous dire nous, les chrétiens, si vous êtes chrétiens, nous, les chrétiens ont un regard sur l'évolution qui est très originale, puisque c'est une évolution qui doit permettre à chacun des membres de la société de pouvoir grandir en humanité. Bon, en sainteté, si on... pour la dimension transcendantale, pour grandir. Donc, on est les rares aujourd'hui, à pouvoir proposer une vision cohérente du tout, qui soit ordonnée à un sens, à une proposition de sens. L'autre grande proposition du tout, aujourd'hui, c'est l'écologie politique. L'écologie politique naît au moment où, justement, il faut penser le tout. Et donc, on va penser le tout à partir de l'extérieur, c'est-à-dire de l'environnement. Mais je vous rappelle que l'écologie, c'est pas l'environnement. Hein. L'environnement, c'est une des dimensions de l'écologie. L'écologie, c'est la science du milieu humain. Donc, dans le milieu humain, il y a aussi la société. Bon, mais on y reviendra, je crois, l'exposé suivant. L'écologie a... Et c'est l'autre grand récit aujourd'hui, l'autre grand récit alternatif, avec la doctrine sur l'Église, l'autre grand récit alternatif, qui essaie de présenter un tout, de montrer que tout est relié, etc. À cette différence que l'écologie n'a pas de sens. On ne sait pas pourquoi il faut qu'il y ait moins de forêts ou plus de forêts. Oui. C'est ordonné à quoi? À la défense de l'humanité? Certains disent non, au contraire, à la disparition de l'humanité. Oui, l'écologie, la type écologie, au contraire, il faut faire disparaître l'humanité. Mais c'est pas cohérent, enfin, quant au sens. Et c'est pourquoi je pense qu'il y a un malentendu sur la Laudato Si. La Laudato Si a été lue par les écologistes d'écologie politique comme une sorte de texte qui les servait. Or, c'est un texte qui est très différent, parce que je vous rappelle qu'il commence au chapitre 2 par une analyse théologique de la question. À quoi sert l'homme? Quelle est la vocation de l'homme? C'est de cultiver le jardin. Est-ce que l'homme a souscrit ou non à cette vocation? Non, dit le pape. Et pourquoi? Description du système. C'est donc au nom, vous voyez, d'une vocation qu'on peut juger que le système est favorable ou défavorable, faste ou néfaste. Et ça, je crois que c'est un apport. Alors, par pitié, emparons-nous de la question écologique au sens large, hein, pas que environnementale, la question écologique. Et jouons notre rôle de chrétien, d'intellectuel chrétien ou chrétien dans les affaires, parce que nous avons quelque chose à apporter, quelque chose qui est vital, et on sera jugé aussi sur notre capacité à avoir apporté au monde d'aujourd'hui, pas une réponse, je crois pas à la solution chrétienne, mais en tout cas un éclairage qui sert tous nos frères et sœurs en humanité. Il y a un sens dans le développement, il y a un sens dans le déploiement. Populaire pourrait se dire, le sens du développement, c'est de servir à tout homme, à tout l'homme et à tous les hommes, et bien ça nous avons encore, toujours et de nouveau à le dire aujourd'hui dans ce monde. Merci.